Voilà, alors j'ai compté sur une ou deux exhortations. Quelquefois c'est un défilé d'exhortations et aujourd'hui il n'y en avait pas, mais c'est comme ça. Alors j'aimerais considérer ou baser mon message sur un passage d'un évangile, et vous devinez certainement que c'est l'évangile de Jean. Encore, pour changer, l'évangile de Jean qui est un si bon évangile, enfin tous les évangiles sont bons, mais il y a tellement de richesses dedans. Et j'aimerais juste baser sur Jean chapitre 6. Et si vous connaissez un peu l'évangile de Jean, vous savez que il y a ce chapitre 6 est consacré notamment à la multiplication des pains, au récit de la multiplication des pains. Mais aussi là où il y a une grande déclaration qu'on va considérer de la part de Jésus qui se trouve dans Jean chapitre 6 et au verset 51. Jésus dit au verset 51, « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. » Quelle déclaration extraordinaire, n'est-ce pas? Il dit aux pharisiens, dans ce contexte-là, que les enfants d'Israël ont reçu la manne dans le désert, mais au fond que la manne, ce n'était pas ce pain qui les nourrissait. Parce que les pharisiens lui disaient, mais quel signe tu fais? Quel miracle tu fais? Nos pères, nos ancêtres, eux, ils ont eu la manne dans le désert. C'était incroyable, c'était spectaculaire, c'était sensationnel. C'était en plus rentable. Et toi, qu'est-ce que tu fais comme miracle? Qu'est-ce que tu fais comme signe pour prouver que tu es le Fils de Dieu, que tu es envoyé par Dieu? Et Jésus leur dit, vos pères ont mangé la manne dans le désert, mais ils sont morts. Et moi, je suis le pain vivant venu du ciel. Il va dire plus loin que ce pain, c'est ça qui donne la vie et la vie éternelle. Et ce matin, j'aimerais commencer par vous dire, est-ce que vous avez faim de ce pain? Est-ce que vous nourrissez de ce pain? Parce que si Jésus dit « Je suis le pain vivant venu du ciel », il ne le dit pas juste comme ça, pour information. Il le dit parce qu'il y a une puissance derrière tout cela. Et ce que je voudrais ce matin, c'est qu'on puisse manger de ce pain, découvrir ce que ça veut dire que manger de ce pain. Un peu plus loin, il dit, oui, parce que les Juifs, comment peux-tu donner sa chair à manger? Et c'est vrai que c'est étrange. En plus, Jésus va dire quelque chose de très, très mystérieux. Et vous le lisez au verset 53, Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, si vous ne mangez la chair du Fils de l'homme et si vous buvez son sang, vous n'avez point la vie en vous-même. Celui qui mange ma chair et qui boit mon sang a la vie éternelle, et je le ressusciterai au dernier jour. Car ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. C'est très choquant, c'est déjà choquant pour nous, sur le plan culturel, mais c'était choquant pour les Juifs d'entendre ça. Ma chair est vraiment une nourriture et mon sang est vraiment un breuvage. Et qu'il faut se nourrir de ça. Est-ce que, donc les Juifs, bien sûr, prenaient les choses au premier degré, n'est-ce pas, quand il a dit détruisez ce temple et je le reconstruis en 3 jours, même les disciples prenaient ça au premier degré et ne comprenaient pas ce qu'il voulait dire. Et les Juifs disaient, mais comment ça se fait? Il a fallu, je crois que c'est 46 ans pour construire le temple, et comment ça se fait qu'il pourrait le construire en 3 jours? Et puis dans la chrétienté, dans le christianisme, il y a d'autres qui ont pris ça littéralement en disant, mais ça veut dire que, puisqu'il a instauré la Sainte Cène, il a dit, ceci est mon corps, ceci est mon sang, alors ça veut dire que c'est réellement, le pain devient réellement le corps de Christ, et le jus de la vigne devient réellement le sang de Christ. Pourquoi prendre ces choses au premier degré, alors que Dieu et Jésus a réellement montré au travers de son ministère qu'il parlait aussi par des symboles. Et j'aimerais qu'on s'arrête là-dessus, qu'on essaye de comprendre ce que c'est la chair de Christ. Et je ferai probablement une autre prédication sur le sang de Christ. Mais la chair de Christ, c'est quelque chose qui doit être compris, à mon avis, ou en tout cas, je pense qu'on doit méditer, qu'on doit chercher par nous-mêmes. Ne croyez pas sur parole ce que je vais dire, mais cherchez vous-même dans les Écritures. Cherchez vous-même devant Dieu à comprendre. Pourquoi c'est important? Parce que Jésus dit, si vous manger de ma chair, vous le lirez, sachez-vous, dans ce passage. Eh bien, celui qui mange de ma chair et qui boit de mon sang aura la vie. Et il s'agit de la vie éternelle. Je le ressusciterai au dernier jour. Donc, si vous voulez être sûr de ça, de ressusciter au dernier jour, si vous voulez être sûr d'avoir la vie en vous, la vie de Dieu, eh bien, vous devez savoir, vous devez comprendre ce que ça veut dire que manger sa chair et que boire son sang, ce que c'est que boire son sang. Il dit aussi que celui, vous le lirez aussi dans ce passage, celui qui mange ma chair et qui boit mon sang demeure en moi et je demeure en lui. N'est-ce pas? Mais c'est fondamental parce que vous allez voir aussi dans Jean chapitre 15 au verset 5 que Jésus dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure porte beaucoup de fruits. » Vous vérifierez aussi dans le texte « fruit est sans s ». Il portera beaucoup du fruit et c'est le fruit de l'Esprit. Et vous savez aussi, si vous lisez Jean chapitre 15, que celui qui ne porte pas de fruit, le fruit de l'Esprit qu'on trouve en Galates 5, 22, eh bien, il le retranche. Il y a des gens qui disent, est-ce qu'on peut perdre son salut? La Bible est très claire là-dessus. Je ne vais pas rentrer dans ce débat-là. Mais la Bible dit très clairement dans Jean chapitre 15 qu'on peut faire partie du cep en étant un sarment et être retranché et être jeté et brûlé au feu. Et cela se produit quand le vigneron est bon, et c'est le cas de Dieu évidemment, et lorsque le sarment ne porte pas de fruits. Il faut le casser, il faut le retrancher. Des gens pensent parfois que porter du fruit, c'est amener des collègues au Seigneur, que c'est avoir une église qui grandit, porter du fruit, ça a 9 aspects que vous trouvez en Galates 5, 22. Et vous devez les méditer jour après jour. Vous devez vous interroger, n'est-ce pas, que chacun s'examine soi-même et qu'il voit si ce qu'il produit, c'est le fruit de l'Esprit. Mais c'est ça qui se passe quand on demeure en Christ et quand Christ demeure en nous. Et il dit que c'est ça qui se produit aussi quand on mange sa chair. Et j'aimerais suggérer que sa chair, c'est sa parole. C'est probablement ce que vous auriez répondu. Je pense que si j'interrogeais, on faisait une évaluation sur 1000 chrétiens et on leur dit, c'est quoi selon vous la chair de Christ d'une manière symbolique, eh bien, il dirait c'est sa parole. Et je pense que c'est sa parole qui est la chair, c'est la parole de Dieu avec un grand P qui est la chair de Christ. Pourquoi? Parce qu'on lit dans Jean chapitre 1 que la parole a été faite chair. Vous voyez, c'est clair. Et quand vous lisez la Bible, vous devez lire pas un chapitre ou un passage, un morceau de chapitre, et puis laisser l'autre morceau pour le lendemain et le troisième morceau du chapitre pour le surlendemain, parce que quand vous arrivez au chapitre 15 de Jean, ça fait 3 mois que vous étiez au chapitre 1 et vous avez tout à fait oublié, n'est-ce pas? L'évangile de Jean devrait se lire en un seul coup et très souvent. Mais en tout cas, peut-être c'est un peu trop de lire tous les chapitres, alors lisez quand même des grosses portions de la parole. De toute façon, en lisant la parole et en méditant la parole, il y a quelque chose qui se produit que je ne peux pas expliquer. Mais il y a quelque chose qui fait qu'on est nourri, on est lavé et on est sanctifié. Et je ne dis pas que la parole avec un grand P, c'est le texte. Mais ce texte qui est écrit et a une puissance, n'est-ce pas? Ce n'est pas les mots, ce n'est pas l'encre sur les pages. Ce n'est pas le livre qui a une puissance, c'est le sens qui est derrière ces mots et le message qui est derrière ces mots qui travaille dans nos vies. Et si vous voulez être sanctifié, et je vous rappelle que dans Hébreux 12, il dit « Sans la sanctification, il est impossible de voir Dieu ». Est-ce que vous savez ce qui va arriver lorsque vous allez mourir? La question de savoir si vous allez rencontrer Dieu et être au ciel, c'est une question de savoir si vous êtes sanctifié. C'est juste une question de sanctification. Ce n'est pas est-ce qu'un jour, vous avez déclaré, « Ok, je veux suivre Jésus, même si c'était sincèrement. » Ce n'est pas ça. C'est est-ce que vous êtes sanctifié, est-ce que vous demeurez en Christ et est-ce que Christ demeure en vous? C'est ça la question. Pour voir Dieu, pour être dans la présence de Dieu, c'est la seule question fondamentale. Alors pourquoi la parole a été faite chair? Eh bien, pourquoi plutôt je pense que la chair correspond à la parole? Parce qu'il y a dans Jean chapitre 1, la parole a été faite chair. Et donc la chair de Christ, c'est sa parole qui a été incarnée, qui a été mélangée avec quelque chose d'autre qu'on va voir. Et j'aimerais juste qu'on puisse considérer justement ensemble comment a été fabriqué le pain. Alors la semaine dernière, nous avons eu un cours de jardinage pour savoir comment ne pas faire pousser des pissenlits chez soi. Eh bien aujourd'hui, on va faire un cours de cuisine, mais vous doutez bien que si c'est moi qui le donne, ce sera un cours de cuisine extrêmement élémentaire. Et on va considérer aujourd'hui comment faire du pain quand on est juif. Qu'est-ce que c'était le pain là? Et ce n'était pas la baguette, ce n'était pas un pain tel qu'on les connaît maintenant. C'est le pain d'ailleurs, le style de pain qu'on utilise nous pour la Sainte-Seine ici. C'est du pain sans levain. C'est un pain qui est extrêmement simple dans sa constitution. C'est pour ça que je peux vous en donner la recette. La recette est simple. Il s'agit de farine mélangée à de l'eau. Voilà. Et il faut bien sûr malaxer pendant très longtemps pour qu'il n'y ait plus de grains de farine apparents. Pour que ça donne une pâte homogène. Et quelle est cette pâte ? Eh bien, c'est de l'eau, mais on ne voit plus l'eau. Et c'est de la farine, mais on ne voit pas la farine. Et je pense que là, il y a une révélation exacte de ce que Dieu, ce que Jésus veut dire en disant « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure ». Et en faisant ça, il montre du pain. Et en faisant ça, il fait référence à sa chair. C'est que la parole de Dieu correspond à l'eau et la farine correspond à ce qui est sur la terre, un fruit noble de la terre qui provient du blé. Et c'est ce mélange parfait entre la parole de Dieu et ce que nous sommes, nous, les grains de farine, ce mélange parfait qui va faire son corps. Parce que vous savez que comme il a été dit tout à l'heure, le son corps, c'est l'Église. Son corps, c'est encore sur la terre, sa chair, c'est l'Église. Il n'y a pas de différence sémantique entre chair et corps. Il y a deux termes grecs qui sont utilisés, deux termes différents. Mais la sémantique est la même lorsqu'il nous est dit que le corps de Christ, c'est l'Église. Eh bien, on pourrait dire la chair de Christ, c'est l'Église sur la terre. Mais cette chair, c'est la parole qui a été faite chair. Et la parole est représentée par l'eau, je le pense, dans la Bible, à plusieurs reprises. Premièrement, dans Jean chapitre 7, vous savez que Jésus s'est écrié « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. » Ça veut dire qu'il était de l'eau. C'est ce qu'il avait dit à la Samaritaine dans Jean chapitre 4. N'est-ce pas que si elle goûte de cette eau, elle n'aura plus jamais soif. C'est la parole de Dieu, lui, le Verbe incarné, la parole incarnée qui est de l'eau. Qui est de l'eau pour ceux qui ont soif. C'est la première raison qui me fait penser que la parole, c'est de l'eau, ou est représentée par l'eau. La deuxième raison, c'est dans Éphésiens chapitre 5. Éphésiens chapitre 5, vous savez probablement, c'est lorsqu'il parle de la représentativité du couple, chrétien, où l'homme symbolise ou représente Christ et la femme représente l'Église. Et il dit, Marie, au verset 25, « Marie, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier. Après l'avoir purifiée par l'eau, alors ici c'est écrit par l'eau et la parole. Mais Darby traduit mieux en disant par l'eau, par la parole. Et en fait, je ne connais pas le grec, mais on a le privilège de pouvoir facilement avoir la traduction littérale du grec. Et le sens, c'est après l'avoir purifié par le lavage, par la parole. Par le lavage, par l'eau, par la parole. Donc la parole, c'est cette eau qui lave, qui nous lave, c'est cette eau, c'est la parole. La troisième raison pour laquelle je pense qu'on peut dire que la parole est représentée par l'eau, il est convenable de dire que la parole est symbolisée par l'eau, c'est que Jean commence son évangile en disant « Au commencement était la parole. » Et la parole était avec Dieu. Alors il faut aller voir ce qu'il y avait au commencement. Et vous savez où trouver, il suffit d'aller au début de votre Bible, dans Jean chapitre 1. Et vous lirez qu'au commencement, Dieu créa le ciel, les ciels et la terre. Et ensuite, il est dit, la terre était informe et vide. Quelque chose qui fait peur. La terre était informe et vide. Je me demande comment quelque chose qui a été créé peut être informe, ne pas avoir de forme. Mais là, il y a un mystère, n'est-ce pas? Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, mais l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y a le Père qui est le Créateur, il y a l'Esprit qui se meut au-dessus des eaux. Et je suggère, mais j'ai peut-être tort, que les eaux c'était la parole. Parce que Jean nous dit dans son épître qu'il y en a trois qui témoignent, n'est-ce pas, dans le ciel. Le Père, la parole et l'Esprit. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Et je me suis dit en lisant ce passage, il y a tellement de l'Évangile là. Il est possible de faire un message d'évangélisation sur Genèse chapitre 1 verset 2. La terre était informe et vide. Combien de gens autour de nous, combien de gens même dans les églises trouveraient que cette description de leur vie, c'est la meilleure description, que leur vie est informe et vide. Combien de gens crient cela, n'est-ce pas, dans l'expression du visage? Ils crient ça dans tout ce qu'ils font, que leur vie est informe et vide. Ils disent qu'il y a des ténèbres à la surface de l'abîme, ils sont comme sur le bord d'un abîme et c'est ténébreux, n'est-ce pas? Mais le message de l'Évangile, c'est qu'il y a Dieu le Père, il y a la parole et il y a l'Esprit qui sont là pour créer, pour faire quelque chose de nouveau. Et ça continue en disant que Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière, c'est Jésus-Christ qui commence à agir dans nos vies, qui commence à nous libérer des ténèbres. Il y a là un message merveilleux, n'est-ce pas? Il y a l'Évangile, déjà dans Genèse, tout au début de la Bible. Mais est-ce que c'est ça que nous connaissons? Est-ce que nous connaissons cette puissance de la communion, de la Trinité, n'est-ce pas, qui agit dans nos vies? Et comment agit-elle? Eh bien, on va reprendre l'image du pain. Le pain est ce mélange de l'eau et de la farine. Il y a trois caractéristiques ou quatre caractéristiques de ce pain. Encore une fois, comme j'ai dit, il est constitué d'eau. Il est constitué, deuxièmement, de farine. Il est formé à partir d'un mélange de ces deux substances. Et quatrièmement, il est sans levain. Et j'aimerais juste développer ça davantage pour qu'on comprenne mieux, j'espère, ce que ça veut dire que de manger de la chair de Christ. Donc l'eau, le premier point est déjà abordé, c'est, je pense, la parole de Dieu. Et lorsque Dieu commence à nous parler, n'est-ce pas? Lorsqu'on entend la voix de Dieu qui nous parle, et on ne peut pas le décrire. Moi, je sais, quand j'ai commencé à entendre la voix de Dieu qui me parlait, j'avais à peu près 9 ans ou 10 ans, j'ai commencé à entendre la voix. Avant, j'entendais des choses, mais ce n'est pas la voix de Dieu, parce que je sais ce que ça fait à l'intérieur quand Dieu parle. Et quand Dieu parle à vos cœurs, que quelle que soit la manière de parler, ce n'est pas par quelqu'un nécessairement. Ça peut être comme ça, sans qu'il y ait de raison, vous sentez que Dieu vous parle sur quelque chose et ça vous bouleverse à l'intérieur. Ça fait, n'est-ce pas, Hébreux chapitre 4 dit que c'est une épée plus tranchante qu'une épée à deux tranchants qui pénètre dans les profondeurs. Il y a quelque chose qui nous transperce. Si vous n'avez jamais connu cette parole qui s'adresse à vous, alors tombez à genoux chez vous et demandez, « Seigneur, parle-moi. Seigneur, j'ai besoin de t'entendre et je veux répondre. » Une des grandes raisons pour laquelle les gens n'entendent pas la voix de Dieu, c'est parce qu'ils ont peur. C'est parce qu'ils ont peur de ce que Dieu va leur dire. Donc Dieu ne parle pas. Ou parce qu'ils ne veulent pas entendre. Mais la parole, cette eau doit être versée sur le deuxième élément qui est la farine. Et dans Jean chapitre 12, Jésus nous parle du grain de blé. Et il dit, si le grain de blé qui est tombé en terre ne meurt, il ne peut porter du fruit. Et cette farine, je vais suggérer que c'est nous. Et que pour faire partie de cette église, pour faire partie de la chair de Christ, pour faire partie du corps de Christ, et c'est ça, manger le corps de Christ, eh bien, il faut comprendre ce processus, n'est-ce pas, qui fait de nous de la farine un grain de farine. Et ce processus est terrible pour le blé. Vous savez que la farine est faite ou était faite avec le blé. Et il faut que chaque grain de blé soit prêt à mourir. Parce que avant de pouvoir finir en des grains de farine, eh bien, il doit être travaillé, il doit être purifié, il doit être mis à l'épreuve pendant longtemps. Est-ce que ce matin, on est prêt, les uns et les autres, à être ces grains de blé qui sont prêts à mourir, qui sont prêts à être purifier, travailler pendant longtemps, c'est un long processus. Il faut que l'enveloppe du blé soit enlevée. Il y a tellement de vérité simplement dans cette notion de travail du grain de blé. Mais est-ce qu'on est prêt à être travaillé? Oh, les gens veulent l'évangile facile. En disant, moi j'ai donné ma vie au Seigneur il y a longtemps. Maintenant je suis tranquille. Je crois, je ne vois aucun rapport avec l'Évangile dans ce genre de témoignage. Et les problèmes du mouvement évangélique, c'est qu'il a proclamé cet Évangile-là au lieu de proclamer l'Évangile. Mais l'Évangile, c'est ce travail quotidien de sanctification, de mise à l'épreuve, de mise d'enlever ce qui est impur, comme l'a dit Emmanuel tout à l'heure, de nous préparer à une destinée extraordinaire qui doit commencer sur la terre. Ce n'est pas une destinée future, mais elle aura sa réalisation complète dans le ciel. Mais cette réalité déjà terrestre de faire partie du corps de Christ, de demeurer en lui et qu'il demeure en nous. Et ce blé, ce grain de blé doit mourir. Et je pense que lorsqu'on baptise quelqu'un, on doit lui demander s'il est prêt à mourir pour Christ, s'il est prêt à perdre sa vie. Et s'il n'est pas prêt à perdre sa vie pour Christ, il ne faut pas le baptiser. Parce que c'est ça le sens. Oh, je ne dis pas que lorsque la persécution vient, les choses doivent être sont faciles et qu'on dit « Oh oui, moi je suis Jésus. » Mais il doit y avoir ce désir et cette participation active à ce que tout ce qui est de nous soit ôté pour être transformé par la parole de Dieu. Parce que dans le processus de cette préparation du pain sans levain, c'est l'eau qui est répandue sur les grains de farine et le travail de celui qui fait le pain qui va mélanger les deux substances. De sorte que on voit plus l'eau, on voit plus la farine, mais c'est parce que l'eau demeure dans la farine et la farine demeure dans l'eau. Et il y a ce mélange qui fait cette pâte nouvelle. Paul a dit dans 2 Corinthiens chapitre 5, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Second a traduit une nouvelle créature, parce qu'il a pensé c'est plus cohérent. Mais ici, une nouvelle création. Vous êtes toujours ce grain de farine, mais vous n'êtes plus ce grain de farine, parce que vous êtes inclus dans une autre modification totale de votre substance, parce que vous avez la parole qui est en vous. Et c'est ça, de manger la chair de Christ. Et Jésus le dit clairement dans Jean chapitre 6, « Celui qui mange ma chair demeure en moi et je demeure en lui. » Et dans Jean chapitre 15, « Si on demeure en Christ et Christ demeure en nous, on porte beaucoup de fruits. » Et c'est ça, l'évangile, c'est ça la vie chrétienne. C'est de pouvoir faire un avec la parole, de pouvoir être inondé de la parole. Ça veut dire, pour le moins, que ceux qui veulent cela doivent plonger dans la parole de Dieu. La parole de Dieu doit être notre nourriture. On doit s'absorber de la parole de Dieu. Mais c'est plus que ça. Ça ne doit pas être juste au niveau de la connaissance. Ça doit être la parole de Dieu qui imprègne notre être, de sorte à ce que ce qui se manifeste, les comportements, les réactions, sont la parole de Dieu. Pour que le monde entende la parole de Dieu, reçoive la parole de Dieu juste en nous voyant. Pour que, si vous voulez, l'amour de Christ, tout le message de Christ, tout le sermon sur la montagne dans Matthieu 5, 6 et 7, soit manifesté non pas par des comportements que l'on produirait par obéissance à une loi, mais juste parce que c'est naturel. Si quelqu'un te frappe sur la joue droite, il ne faut pas se forcer à tourner l'autre joue. Il doit y avoir quelque chose en nous qui fait que on accepte encore plus. Ça, c'est la nature de la parole qui s'exprime, n'est-ce pas? C'est ça le pain de vie. C'est ça que ça veut dire manger de la chair de Christ. C'est ça que ça veut dire de faire la Sainte Cène. C'est ça que ça veut dire que de se faire baptiser. Pourquoi se faire baptiser? Pourquoi passer dans l'eau? Premièrement, le seul baptême qui est un sens, c'est le baptême par immersion. Si le grain de farine ou si la farine disait non, juste une goutte, elle ne deviendra jamais ce pain de vie. Elle ne deviendra jamais la chair de Christ sur la terre. Elle ne deviendra jamais l'Église. Le seul baptême qui a un sens, c'est le baptême par immersion totale. Mais ce baptême doit représenter une réalité que l'on a déjà expérimentée, mais que l'on veut expérimenter toute sa vie, qui est de celle d'être imprégné par la parole de Dieu, d'être manipulé par Dieu, pour former un pain, le pain de vie. Est-ce que c'est important de se faire baptiser? Des gens disent, non, regardez le brigand sur la croix, Jésus lui a promis le paradis, alors qu'il ne s'est pas fait baptiser. Alors on dit, ah oui, mais il y a des circonstances atténuantes. Vous ne pouvez pas demander si on pouvait le décrocher de la croix pour qu'il puisse se faire baptiser, etc. Mais ce que je voudrais vous suggérer, c'est que le brigand sur la croix était baptisé. Il était baptisé, évidemment, parce qu'il a reçu les paroles de Christ et il a laissé Christ toucher son cœur et sa vie. Et ce qui est sorti de la bouche de ce brigand, de cet homme qui probablement n'avait jamais entendu parler de Christ avant ou en tout cas l'avait jamais cherché, témoignait que la parole de Dieu avait pénétré dans son cœur et qu'il demeurait dans la parole de Christ. Donc il était baptisé. Alors vous allez dire, donc le baptême par immersion n'est pas nécessaire puisque l'essentiel c'est une réalité intérieure, je peux échapper au baptême par immersion. Non. Si quelqu'un se marie dans cette église, on va nous demander est-ce qu'il porte une alliance. Et personnellement, j'insisterai qu'il porte une alliance. Parce que je trouve très... Il y a des raisons pour lesquelles certains ne peuvent pas porter d'alliance. Il y a des allergies, il y a aussi, il faut dire ce qui est, surtout chez les hommes, des hommes qui doublent de volume après le mariage et donc l'alliance ne rentre plus, etc. Et on risque à devoir amputer le doigt si on doit un jour enlever l'alliance. Mais ce que je veux dire, si quelqu'un refuse de porter une alliance, c'est très suspect. Mais maintenant, si je perds cette alliance, pas inadvertance, il n'y a pas de danger parce que j'arrive plus à l'enlever. Mais si je la perdais, je suis quand même marié à Sophie. Ce n'est pas ça qui est l'alliance, mais c'est le témoignage de l'alliance. C'est un témoignage public. Et ce que Jésus dit, si quelqu'un a honte de mes paroles, mon Père céleste aura honte de lui dans le ciel. Et on doit passer par ce signe qui est la représentation, qui est la déclaration, qui est comme le port d'une alliance. C'est pour ça aussi qu'on prend la Sainte Cène. On ne le fait pas souvent. La raison pour laquelle on ne le fait pas souvent dans cette Église, c'est parce qu'on a peur du manque de discernement du corps et du sang de Christ. Et on veut que lorsque ça se fait, ça soit fait avec beaucoup de réflexion. On a peur que ça devienne une habitude, un rite, et que les gens disent « je suis baptisé, donc je peux le prendre ». Mais peut-être que vous avez menti en étant baptisé. Peut-être que vous avez fait un faux témoignage. Peut-être que vous avez dit « je suis plongé dans la parole » et ce n'était pas vrai. Alors le Seigneur vous permet de régler ça et de pouvoir prendre la Sainte Cène, qui est manger le corps de Christ. Non pas que ce pain devienne le corps de Christ, mais ça devient le témoignage ouvert aux gens que je mange le corps de Christ, que je demeure en lui et qu'il demeure en moi. C'est donc ce troisième aspect, ce mélange parfait, qui va faire le pain. Et j'aimerais continuer juste en parlant du quatrième aspect, qui est le fait que le pain était forcément sans levain. C'est un ordre de Dieu, n'est-ce pas, aux enfants d'Israël, pour la Pâque, n'est-ce pas, de faire du pain sans levain. Il ne devait pas y avoir de levain. Alors certains disent que le levain représente le péché assez souvent dans la Bible, ce qui n'est pas faux, pas toujours, pas dire qu'à chaque fois, parce qu'il y a au moins une exception où ça ne représente pas le péché. Mais le levain est aussi l'hypocrisie. Parce que Jésus a dit à ses disciples, gardez-vous du levain des pharisiens. Et le reproche essentiel qu'il avait à faire aux pharisiens, c'était l'hypocrisie. Et l'hypocrisie, le terme qui est utilisé en grec, eh bien, c'est faire du théâtre. C'est-à-dire jouer un rôle qui n'est pas nous-mêmes, n'est-ce pas ? Ça, on connaît très très bien avec les ordinateurs maintenant, où on rentre dans la peau d'un personnage, n'est-ce pas ? C'est dangereux. Parce que si vous jouez tout le temps du théâtre devant les autres, vous risquez à croire que vous êtes le personnage que vous incarnez, et non plus vous-même. Et les pharisiens jouaient un rôle parce qu'ils se donnaient la conviction à eux-mêmes qu'ils étaient justes devant Dieu, qu'ils étaient saints, qu'ils étaient bons, qu'ils étaient approuvés de Dieu. Et à l'intérieur, c'était de la souillure. C'est pour ça que Jésus a dit qu'ils étaient comme des tombeaux blanchis. L'hypocrisie, je suggère, que le levain représente l'hypocrisie. Et regardez ce que fait le levain dans la pâte. Il n'en faut pas beaucoup pour que la pâte s'enfle, n'est-ce pas? Et que vous n'ayez pas ce pain plat, tout simple, que les Juifs avaient, que Jésus avait dans ses mains lorsqu'il a donné à ses disciples le pain. Mais on a un pain qui est enflé, c'est pas qui est gros, qui est volumineux. Et ce qu'on désire dans nos vies, mais aussi dans cette Église, c'est qu'il n'y ait pas ce levain, qu'il n'y ait pas de choses qui soient grossies, qu'il n'y ait pas du sensationnel, du visible de loin, n'est-ce pas, du flashy, comme disent les Américains. Quelque chose qui attire les regards. Jésus nous a dit qu'il était sans attrait ni beauté, il n'avait rien pour attirer nos regards. Vous trouvez ça dans Ésaïe 53, bien sûr. Il n'y avait rien qui attirait. Je suppose que même dans sa façon de parler, il n'y avait rien d'éloquent. En tout cas, l'apôtre Paul n'était pas éloquent. Il le dit lui-même. Mais il y avait la puissance. Il y avait la puissance de Dieu. Et la puissance de Dieu doit se manifester. Et ce qui doit être donné au monde comme nourriture, ce n'est pas quelque chose qui est hypocrite, quelque chose qui gonfle, mais quelque chose qui est de la nature simple, de ce que Dieu nous a donné, de la réalité de ce que Dieu nous a donné. Parce que c'est réellement seulement cela que l'on peut donner aux autres. Jésus, lorsqu'il a pris le pain, dans Matthieu 26, 26, et il l'a donné à ses disciples en instituant la Sainte Cène, il a dit, « Ceci est mon corps qui est rompu pour vous. » N'est-ce pas, dans 1 Corinthiens 11, l'apôtre Paul reprend ses paroles, « Ceci est ma chair, mon corps, et ceci est mon sang. » Et il l'a rompu devant ses disciples. Bien sûr, ça symbolisait exactement comme dans Jean chapitre 12, le grain de blé. Il a dit « À moins que le grain de blé qui tombe en terre ne meure, il ne peut porter de fruits. » Il parlait déjà de sa crucifixion. Mais c'est la même chose pour nous, d'être prêt à mourir, n'est-ce pas? Dans Jean chapitre 13, il nous parle de l'eau parce qu'il a lavé ses disciples. Et dans Jean chapitre 14, 15, 16, et 17 au fond. Il parle de cette communion merveilleuse qui existe entre la parole et les gens qui acceptent sa parole, qui se laissent imprégner de sa parole. Mais l'Église représente son corps sur la terre et l'Église est appelée à être partagée, n'est-ce pas, pour donner aux hommes et aux femmes ce pain de vie. Et le pain de vie n'est plus représenté par Jésus sur la terre, représenté par son corps, sa chair, qui est l'Église. Et c'est à nous d'être le pain pour le monde, pour les hommes et les femmes qui ont faim. Nous devons être le sang aussi de Christ. Nous devons donner, je l'exprimerai probablement dans une autre prédication, aussi pouvoir donner le sang de Christ pour laver, pour purifier les péchés. Ce n'est pas nous, par nous-mêmes. Comment la farine peut-elle donner du pain, à moins qu'elle soit mélangée à de l'eau? Et c'est là qu'elle peut nourrir. C'est là qu'elle peut faire le travail que Jésus a commencé sur la terre et le perpétuer jusqu'à son retour. Merci. Amen.